Bonjour à tous, merci de nous écouter, d'être avec nous pour ce CQFR du 6 mars 2024. Si vous étiez avec nous hier soir sur la Late Session, vous savez qu'Antoine n'est pas là ce matin. Il a une deuxième intervention chez le dentiste. On lui souhaite évidemment plein de courage et de nous revenir en forme demain matin, ce qui sera le cas normalement. On pourra discuter des matchs de la nuit prochaine. En attendant, on est ensemble pour parler des 9 matchs de la nuit écoulés en NBA. Il s'est passé des choses intéressantes, qu'on a eu des conséquences au classement, il y a eu des surprises. Et je pense qu'on peut commencer par peut-être la plus grosse surprise de la nuit, la fin de la série de victoires des Boston Celtics. Ils étaient sur 11 victoires de suite. Ils se sont déplacés à Cleveland. Alors, c'est pas tellement le fait que ce soit les Cavs qui les aient battus qui est surprenant, parce que les Cavs sont à la lutte pour la deuxième place avec Milwaukee. Donc, c'est une des très très bonnes équipes de la conférence Est cette saison. C'est plutôt la manière dont ils se sont imposés. Boston avait complètement le match en main. Boston menait de 22 points dans le quatrième quart-temps. Et les Celtics se sont liquéfiés, ont laissé les Cavs revenir dans le match. Ont laissé Dean Wade être le héros improbable de ce quatrième quart-temps. Wade qui met 20 points dans le quatrième quart-temps. Et 20 points, c'est plus que toute l'équipe de Boston dans le quatrième quart-temps. Donc c'est vous dire à quel point Boston a déjoué. Boston aurait quand même pu remporter le match, au moins aller en prolongation, mais la faute sur Jason Tatum à 0.7 de la fin a été challengée par JB Bickerstaff, qui a donc gagné ce challenge, puisque les arbitres ont décrété que Tatum n'avait, c'était Tatum qui avait créé le contact avec Darius Garland, et la faute a donc été annulée. Et pour la manière, il faut aussi préciser que Cleveland jouait sans Donovan Mitchell, ça c'est le cas depuis quelques matchs, et a perdu Evan Mobley en cours de route, donc c'est pas rien, hein. il s'est blessé à la cheville en deuxième mi-temps, et malgré ça, ils sont revenus, ils ont effacé ce retard de 22 points, et ils se sont replacés dans la course à la deuxième place. Pour Boston, c'est pas dramatique. Alors les sceptiques diront qu'ils ont des doutes sur leur mental et sur leur capacité à le maintenir en play-off. Là, c'est un match de saison régulière, je pense pas qu'il faille tirer de conclusion alors qu'ils sont sur une lancée assez formidable. Il y a eu un relâchement coupable, et Cleveland n'est pas le genre d'équipe contre lesquelles tu peux te relâcher comme ça. On passe au choc de la nuit, peut-être, du côté de la conférence Ouest. C'était le dernier match de la nuit, chronologiquement. Les Suns ont fait un très joli coup, ils se sont imposés à Denver, après prolongation, 117 à 107. C'est un très beau coup parce que Denver a quand même été là aussi sur une bonne lancée, et espérait pouvoir reprendre les commandes à l'Ouest. Au final, ce sont les Suns qui l'ont porté. Alors Phoenix s'est fait peur aussi, parce que Phoenix a fait comme Boston, c'est-à-dire en dilapidant 22 points d'avance. Mais Phoenix a trouvé les ressources, contrairement aux Celtics. Et par ressources, j'entends filer la balle à Kevin Durant pour qu'il marque des paniers. C'est plutôt une bonne stratégie, une bonne approche qui a fait ses preuves en NBA depuis quelques années. KD a marqué 35 points, mais surtout il a marqué le panier de l'égalisation à la fin pour aller en prolongation. Il a marqué 8 des 15 points de Phoenix pendant la prolongation. Ça a suffi parce que les Nuggets étaient déjà rentrés à la maison dans leur tête pendant la prolongation. Ils n'ont pas du tout, été à la hauteur. Et c'est donc Phoenix qui l'emporte avec un bon match de Grayson Allen, qui finit avec 28 points et 8 paniers à 3 points pour aider les Suns à réussir ce joli coup qui les conforte à cette 6e place. Comme je le disais en préambule, tous les matchs entre... concurrents, c'est pas que des concurrents directs, Phoenix est assez loin de Denver, mais entre équipes qui ont des ambitions à l'Ouest, valent cher parce que le classement est très serré et que chaque victoire peut vous faire bouger au classement. On peut parler des Spurs, évidemment, j'ai pas ouvert avec Victor Wembanyama, on l'a déjà fait les deux dernières fois, c'est quand même un match qui a compté, sauf que c'est pas Victor Wembanyama qui a été la star de ce match, c'était contre les Houston Rockets, les Spurs qui ont perdu à Houston après avoir gagné leurs deux derniers matchs. Ils ont perdu 114 à 101. Victor fait un match, alors on va dire moyen maintenant selon ses standards, pour ne pas dire plus, moyen en attaque avec 10 points à 4 sur 10 et 11 rebonds. Il fait un bon match, plutôt bon match en défense, dans la protection du cercle avec 7 contres. Donc voilà, des soirs où Victor Wembanyama n'est pas forcément très bien. Il était incertain d'ailleurs, il était blessé à l'épaule. Les soirs où il est moins bien, il fait quand même 7 contres. Donc c'est vous dire le niveau, l'exigence devant laquelle il nous place maintenant. Mais la star de ce match, c'est pas Victor Wembanyama, c'est Alperen Şengün. Şengün qui a fait le meilleur match de sa carrière, tout simplement. On va dire les choses comme elles sont. Le Turc nous a fait un match avec 45 points, donc son record personnel en NBA, 16 rebonds et 5 interceptions à 19 sur 32. Donc qu'il a dominé ce match de la tête et des épaules. Ce duel direct et parfois à distance avec Wembanyama a été remporté haut la main. Comme le disait Benjamin, dont je vous invite à lire l'article sur le match, comme après chaque rencontre des Spurs, il écrit un article assez détaillé, il sort les points importants. Benjamin notait à juste titre que Şengün avait clairement cherché la confrontation, ou en tout cas n'avait pas fui la confrontation avec Wembanyama. Il a marqué 17 de ses 45 points sur des actions où il a directement attaqué Victor. Et il a aussi marqué à chaque fois sur les possessions où Victor est arrivé en second rideau à la fin de l'action. C'est une performance marquante parce que c'est aussi un autre jeune intérieur qui est amené à briller dans notre ligue dans les années à venir et peut-être dès maintenant. Moi, j'aime beaucoup sa progression, j'aime beaucoup les opportunités et la responsabilité que lui donne maintenant Ime Udoka, qui va l'aider encore à progresser. Et toute proportion gardée, parce que j'aime pas forcément mettre des comparatifs aussi durs en termes de trajectoire, de profil, ça me fait un peu penser à la progression de Jokic en début de carrière. On l'a vu progressivement faire des matchs comme ça de cet acabit-là, 45 points, 16 rebonds, 5 interceptions. Şengün, c'est un joueur super à voir jouer, c'est un joueur avec une incroyable vision de jeu, une qualité de passe, un toucher. Et je pense qu'on n'a pas encore vu tout ce dont Alperen Şengün était capable. On reste à l'ouest avec une contre-performance à nouveau de la part des Mavs qui sont sur 3 défaites de suite maintenant après leur revers à domicile contre Indiana. On savait que ce serait un match offensif, on en avait parlé hier. Et Dallas qui perd 137 à 120 contre Indiana à la maison. Alors voir Luka Doncic enchaîner les triples-doubles avec au moins 30 points, ce qu'il n'arrête pas de faire en ce moment, c'est plutôt sympa visuellement, c'est sympa pour le spectacle, mais c'est pas la bonne formule pour les Mavs. En tout cas, sur ces 3 derniers matchs où il a fait ces performances-là, les Mavs ont perdu. Doncic compile 39 points, 11 passes et 10 rebonds, mais ça n'a pas empêché les Mavs de ne pas être capable de limiter l'attaque des Pacers, la bonne répartition des tirs. Les Pacers ont été 9 à marquer au moins 10 points, leur banc a été excellent, hyper tranchant avec 69 à 32 pour les remplaçants de Rick Carlisle. Et Dallas alors Antoine n'est pas là, c'est dommage parce qu'il aurait pu pondérer mon scepticisme, mais même si je les trouve beaucoup mieux et beaucoup plus cohérents depuis les renforts enregistrés à la deadline, j'ai toujours des doutes sur Dallas au moment des playoffs. Pas sur Doncic en lui-même, que je trouve incroyable. Même pas sur Kyrie, qui est plutôt irréprochable dans le jeu. Il est même très bon cette saison. Mais sur l'ensemble, je sais pas. C'est compliqué pour les Mavs. Ils vont faire des matchs où ils donnent l'impression que sur un soir, ils peuvent battre absolument n'importe quelle équipe. Donc c'est plutôt bien dans un contexte de play-in auquel ils vont peut-être devoir faire face. Mais globalement, sur une série, j'ai du mal à les voir battre tant d'équipes que ça. Même avec la présence de Luka Doncic, qui a un niveau irréel, quoi. Donc les Mavs qui s'inclinent à domicile, et c'est leur troisième défaite de suite, 137 à 120. On file à l'Est, Antoine n'est pas là, donc je vais m'octroyer le droit de parler du Magic en premier, très rapidement. Orlando qui s'est emparé de la quatrième place à l'Est grâce à sa victoire à Charlotte, 101 à 89, donc ça c'est pas un exploit, hein, même si c'est la 9e victoire en 11 matchs pour le Magic, avec 22 points de Paolo Banchero. Mais c'est aussi grâce à la défaite des Knicks que le Magic s'empare de la quatrième place. Les Knicks qui sont... Alors ils étaient déjà déplumés avec Julius Randle, OG Anunoby et Jalen Brunson, pardon, au dernier match qui s'est blessé. Là, ça devient une hécatombe. Le 5 des Knicks, c'était Miles McBride, Josh Hart, Dante DiVincenzo, Isaiah Hartenstein, Precious Achiuwa, c'est tous des joueurs qui ont été bons avec Tom Thibodeau depuis qu'ils sont là. Hein. Mais c'est difficile de pas avoir beaucoup d'alternatives et de devoir faire de ces joueurs-là tes titulaires indiscutables. Et donc les Knicks, ils se sont inclinés à domicile contre Atlanta. Atlanta qui aime bien venir à New York, même sans Trae Young. Et Atlanta qui s'est imposé 116 à 100. Et il n'y a pas... Enfin, d'entrée, les Hawks ont pris les Knicks à la gorge, 33-15 dans le premier carton. Les Hawks ont ensuite géré cette avance, notamment grâce à Jalen Johnson qui, comme je parlais de Şengün juste avant, Şengün qui va être un candidat très très sérieux pour le titre de MIP, je pense que Jalen Johnson, même s'il est moins médiatisé, moins suivi parce que les Hawks se sont moins regardés, Jalen Johnson, 26 points ce soir, a été encore excellent. Et je pense qu'il mérite d'être au moins dans la conversation de Most Improved Player. C'est une bonne opération pour pour les Hawks, ce qui restait sur deux défaites un peu gênantes contre Brooklyn dans cette course un peu obscure, cette course annexe pour la dernière place pour le play-in où on pensait que les Nets étaient finis. Puis finalement, les Nets ont gagné deux fois contre Atlanta et sont revenus à deux victoires derrière. Puis les Nets se sont loupés contre les Grizzlies à domicile l'autre jour. Et il fallait qu'Atlanta réagisse et montre qu'ils bénéficient encore d'une petite marge par rapport aux Nets. Et ils l'ont fait cette nuit, c'est le plus important dans la course au play-in. Je vous parlais des Nets, les Nets justement qui ont repris un peu cette course, peut-être désespérée pour la 10e place. Ils ont dominé Philadelphie qui jouait alors, évidemment sans Joel Embiid, mais en plus maintenant sans Tyrese Maxey qui était en protocole commotion, il me semble, hein, il était touché à la tête. Et ils sont donc inclinés, je vous donne le score tout de suite. Philadelphie. Qui perd 112 à 107. Excusez-moi pour le score, j'avais pas ma fiche à côté. 112 à 107, avec un bon match. Alors, démarrage poussif pour les Nets, mais après, Dennis Schroder et Dorian Finney-Smith, tous les deux, ont accéléré, ont marqué 20 points chacun. Et ça a permis aux Nets de remporter ce match et de rester donc à deux victoires moins. Enfin, il y a un tie-break qui leur est défavorable par rapport aux Hawks, mais il a deux victoires de moins, un tie-break défavorable. Ça va être une storyline annexe qu'on va suivre quand même, parce que le play-in nous intéresse, hein, même si ces équipes-là sont pas les plus sexy de la ligue. On a vu que Miami, l'année dernière, à l'Est, était sorti du play-in pour finalement aller en finale NBA. Donc on va pas négliger ces rencontres-là quand elles se produiront. Miami, justement, on peut peut-être passer sur le Heat. Miami qui a récupéré la 6e place à l'Est, en profitant de cette défaite des Sixers, justement. Le Heat est venu à bout des Pistons grâce à un bon finish de Jimmy Butler, notamment, qui a inscrit 15 de ses 26 points dans le quatrième carton, avec l'aide de Bam Adebayo et Duncan Robinson, qui ont tous les deux marqué 18 points pour permettre à Miami de l'emporter. Miami qui s'impose donc 118 à 110. Ce qui nous intéresse généralement chez les Pistons, on va pas se le cacher, c'est de regarder le temps de jeu d'Evan Fournier, maintenant qu'Killian Hayes n'est plus là. Evan a joué 15 minutes cette nuit en sortie de banc pour 7 points à 2 sur 10. Donc, ce n'est pas la meilleure soirée au niveau shooting. Par contre, on regarde toujours le temps de jeu. 15 minutes, c'est un entre-deux qui peut être satisfaisant, en tout cas pour rester en jambes et rester dans la compétition avant les Jeux Olympiques. Il y avait un dernier match. Les Raptors accueillaient les Pelicans et ça ne s'est pas bien passé du tout pour nos amis des Dinos. Les Raptors ont perdu 139 à 98 contre les Pelicans à domicile. C'est la plus lourde défaite de leur histoire à domicile. Donc ils ont pris 41 points dans les dents à la maison, notamment à cause de l'adresse d'un joueur que j'aime beaucoup, Trey Murphy. Trey Murphy 3, 10 sur 14 à 3 points. 10 paniers à 3 points pour Trey Murphy cette nuit. Et il n'y a pas eu de suspense et les Pelicans ont pu conforter leur 5e place à l'Ouest. Et ils continuent de traîner, de se planquer dans l'ombre en espérant peut-être que les Clippers, qui sont quatrième et qui donc ont virtuellement l'avantage du terrain à l'heure qu'il est, en espérant peut-être que les Clippers aient un coup de moins bien à un moment. Les Clippers ont 3 victoires d'avance sur les Pelicans, donc c'est quand même confortable. Mais on ne sait jamais, il reste suffisamment de matchs pour qu'une série dans un sens et une série dans l'autre rendent cette course à la quatrième place, qui, je le répète, est très importante parce que tu reçois à domicile au premier tour, pour que cette course reste intéressante jusqu'au bout. Voilà, c'était les 9 matchs de la nuit. Je vous rappelle les scores rapidement. Orlando a gagné à Charlotte 101 à 89. Boston s'est incliné après 11 victoires de suite à Cleveland 105 à 104. Brooklyn a battu Philadelphie 112 à 107. Miami a logiquement défait Détroit 118 à 110. Les Knicks se sont inclinés au Madison Square Garden 116 à 100 contre les Hawks. Les Raptors ont pris le bouillon à domicile contre les Pelicans 139 à 98. Les Mavs aussi ont pris un bouillon à domicile contre les Pacers 137 à 120. Les Spurs de Victor Wembanyama ont perdu à Houston 114 à 101 avec l'énorme match donc d'Alperen Şengün qui, je pense, on peut le dire, est le MVP de cette nuit. Et le dernier match de la nuit, chronologiquement, c'était Denver contre Phoenix. Phoenix qui est allé s'imposer à Denver après prolongation 117 à 107. Voilà pour ce CQFR un peu plus court que d'habitude, mais il n'y avait pas mon camarade Antoine pour rebondir sur certaines idées et certains faits qui se sont déroulés cette nuit. On le retrouvera demain matin dans le CQFR, évidemment. En attendant, sur la chaîne, demain, vous retrouverez le replay de la Late Session si vous l'avez manqué. On a refait une petite analyse des équipes qui draftaient le moins bien depuis 2010. On a regardé les accidents de parcours, les ratés pour voir un peu qui faisait moins bien son boulot que les autres. Alors on a, vous inquiétez pas, on a parlé d'un peu tout le monde, hein, Sacramento, Minnesota, Phoenix, tout le monde y a eu droit. Donc je vous invite à regarder ça demain après-midi si vous êtes passé à côté hier soir. Sur la chaîne, il y a toujours le podcast de lundi où j'étais avec Théo et Fred Yang. Donc je sais que vous aimez beaucoup les interventions en général. On a digressé un peu sur l'intervention de l'ami Gilbert Arenas sur la place des Européens en NBA et leur responsabilité dans la baisse du niveau défensif. Et on a aussi parlé de l'arbitrage et de ce qu'il faudrait faire pour que l'arbitrage en NBA gâche moins le spectacle. C'est comme ça nous avait proposé le sujet Fred. Et voilà, je vous invite à écouter ça, c'est très intéressant. Et nous, en attendant, on va se retrouver demain matin. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.